France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous l'échange réciproque des savoirs ? C'est une idée toute simple et assez géniale. Chacun, chacune peut apprendre quelque chose aux autres et échanger du savoir, du savoir-faire sans échange d'argent. Une forme de troc qui crée du lien. Il existe un réseau national d'échange réciproque des savoirs qui regroupe des associations partout en France. Il y en a sans doute une près de chez vous. Et on s'intéresse aujourd'hui à celle de la Nièvre, département à l'honneur toute la semaine dans les carnets de campagne. Ensuite, je passerai un coup de fil à un petit village du Morvan, Rémilly, où l'ancien moulin est devenu un lieu de fête, de vie, de culture. Le meunier ne dort pas, il fait la fête, et ce moulin va très vite pour dynamiser son territoire. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Apprends-moi à cultiver un potager, je t'apprendrai le code informatique. Donne-moi des cours de théâtre et je te donnerai des cours de couture. Voici un réseau d'échange des savoirs qui existe depuis une dizaine d'années dans la Nièvre, la coopérative des savoirs du Nivernais-Morvan, dont le siège est à Brassy, un village situé entre Clamcy et Château-Chinon. Bonjour Aurélie Bilassène.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'une des bénévoles de cette association, la coopérative des savoirs. Vous êtes à Clamcy. Quelle est la raison d'être de cette association, Aurélie ? Quelle est sa philosophie ?
La coopérative des savoirs, c'est un espace où on apprend ensemble. L'association, elle permet aux personnes qui habitent à côté de se rencontrer, de partager des savoirs qu'ils ont ou qu'ils veulent apprendre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être successivement dans la position du sachant et dans celle de l'apprenant.
Exactement. Et c'est ça le but de l'association, de pas être seulement consommateur et de participer à nous rendre collectivement tous acteurs. Et donc, on est incité, quand on a bénéficié d'un atelier, à venir proposer son savoir. Et souvent, ce qu'on entend, c'est « mais moi, je ne sais rien faire ». Et donc, c'est vraiment la phrase qui revient le plus souvent. Et il y a aussi, du coup, sur un plan plus sociétal, il y a cette visée-là aussi dans l'association, c'est-à-dire redonner de la valeur à chacun, retrouver notre force. Parce que oui, nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. Donc, c'est ça qu'on veut promouvoir.
Voilà, le savoir et le savoir-faire circulent sans échange d'argent. Comment ça marche concrètement ? Comment organisez-vous les choses ?
Et ben concrètement, c'est des personnes qui nous proposent d'animer un atelier sur un savoir qu'ils ont. Donc c'est souvent au cours d'un autre atelier qu'ils nous proposent ça. Par exemple, Pauline nous a proposé récemment de nous montrer comment est-ce que elle se servait de ChatGPT et comment on pouvait apprendre à se servir de ChatGPT. Et à cet atelier-là, par exemple, Cécile est venue, a découvert le concept du réseau d'échange réciproque de savoir. Et a dit, je trouve ça génial comme concept. Moi, l'informatique, c'est pas mon truc. Mais par contre, je peux vous proposer un atelier de peinture à la farine, ce qu'on va organiser bientôt. Et donc, c'est ça, ça se fonctionne comme ça. Donc, c'est Jacqueline qui va nous montrer comment on fait des origamis de folie. C'est Vincent qui va nous montrer comment on soude. Eliane qui va nous montrer quelles plantes sauvages elle récolte pour cuisiner. Donc ça, c'est des ateliers qui ont eu lieu dans l'année passée. On apprend ce que c'est. On comprend que, en fait, là, on vient de recevoir un savoir. Et on est incité à partager nos savoirs ou nos savoir-faire.
Il faut préciser, Aurélie, que le réseau réciproque de savoir, c'est un mouvement national qui existe depuis les années 70,
oui,
c'est ça ?
Exactement, qui a été créé au départ par Claire Hébert Suffrin en banlieue parisienne. Et il y a beaucoup d'associations comme la coopérative des savoirs Nivernais-Morvan, mais d'autres associations qui portent d'autres noms et qui sont aussi dans ce mouvement de réseau d'échange réciproque de savoir.
Université populaire et buissonnière, c'est ainsi que vous vous présentez, j'aime beaucoup le terme.
C'est ça.
Il y a vraiment des exemples de gens qui pensaient ne rien savoir et qui en fait ont animé un atelier ?
À tout le temps. C'est la phrase qui revient pratiquement systématiquement. On est tous un peu persuadés qu'on ne sait rien. Et en grattant, c'est souvent en discutant, que tout d'un coup, en fait, on se rend compte que si la personne elle a une connaissance incroyable sur la musique classique et elle serait prête à transmettre ce savoir, ou qu'elle sait braser un tuyau. Mais c'est des choses où parfois on n'a pas l'impression que c'est des savoirs qui peuvent être utiles à d'autres, qui peuvent être recherchés pour d'autres personnes ou qui sont intéressants.
Où se déroulent les ateliers ?
Il y a des ateliers qui ont lieu à Brassy. Moi, pour de mon côté, sur ce que j'anime, ça a lieu à Clamecy, dans des salles qui sont gentiment prêtées par la mairie qui nous soutient dans cette démarche. Mais à Clamecy, il est prévu très bientôt que nous ayons un lieu associatif qui est en train de se monter à Clamecy avec une quinzaine de citoyens qui habitent aux alentours de Clamecy.
À titre professionnel, Aurélie, vous êtes praticienne shiatsu. C'est un massage japonais, hein, le shiatsu.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, cet engagement bénévole ?
Pour moi, c'est une superbe source pour assouvir ma curiosité, parce que j'ai toujours envie d'apprendre plein de trucs, de savoir faire plein de trucs, mais les formations qu'on connaît classiquement, c'est cher, c'est souvent loin de chez nous, et c'est parfois très descendant, très institutionnel. Alors que là, ça peut enfin permettre personnellement d'assouvir une curiosité de savoir. Donc par exemple, professionnellement, par rapport au shiatsu, là, on va bientôt avoir un atelier autour du qigong. Et donc ça participe aussi à améliorer mes techniques sur le corps et sur les techniques corporelles.
C'est de la formation continue finalement.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est le qigong ?
Le qigong, bah, on va apprendre ça bientôt, mais je crois comprendre que c'est un éveil des danses corporelles, au souffle, à la respiration.
Et quel est l'atelier dont vous rêvez et qui n'a pas encore eu lieu, Aurélie ?
Moi, je rêverais d'apprendre le japonais. Donc, je fais un appel à tous ceux qui, dans la Nièvre, sauraient nous apprendre le japonais, car nous sommes quelques-uns à vouloir apprendre cette langue.
Bon, l'appel est lancé, et surtout, vous nous donnez des nouvelles si cet appel aboutit, d'accord ?
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup, Aurélie Bellassène. La coopérative des savoirs du Nivernais-Morvan, c'est donc à Brassy et à Clamecy, entre autres. Et on trouvera toutes les infos sur votre site internet. Bonne journée !
Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Comment attirer du monde dans les campagnes qui se sont vidées ? Question difficile qui recouvre des enjeux très différents en fonction des territoires. Voici un petit village du Morvan où un café associatif a vu le jour dans un ancien moulin. L'idée à terme est de faire plein d'autres choses dans ce lieu de vie. Nous sommes à Rémilly, commune de 160 habitants. Bonjour David Beltramelli.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'un des porteurs de ce très beau projet baptisé le Limon. Vous êtes architecte d'intérieur de profession. Votre ambition est-elle en effet de rendre cette campagne attractive, de faire venir du monde ?
Oui, c'est ça. Enfin, l'idée, on est avec une bande de copains à s'être installé dans le village de Rémilly. Et on voulait un lieu qui amène de la culture, de la vie, mixer les générations et rencontrer des gens, créer du lien. Et l'idée du Limon, en fait, a germé comme ça en nous avec les amis.
Pourquoi ce nom, le Limon ?
Parce que c'est presque l'anagramme de moulin. Et,
presque l'anagramme, presque, c'est un bon concept, ça.
Ouais. Et il résonnait avec pas mal de valeurs qu'on porte, de liens et d'attaches, parce que c'est une pièce d'un escalier qui maintient l'escalier, donc une pièce de soutien. C'est aussi une pièce sur les calèches qui lie l'animal à la calèche, donc ça crée du lien. Et c'est aussi une terre sablonneuse qui est un petit peu la terre le long de la laine où est situé le moulin. Donc voilà, ce nom a pas mal résonné chez nous et pour le projet. Et en plus, il est mignon.
En plus, il est mignon et puis c'est aussi un petit peu le citron, non ? Il y a du piquant dans ce projet.
Exactement, c'est ça.
Vous nous décrivez ce moulin, David ?
Alors, il y a deux grandes bâtisses, un moulin au bord de la Laine, qui est un affluent de l'Aron et après qui se jette dans la Loire. Et donc, on a un café associatif dans l'ancienne pièce où le grain était meulé. Donc, on a aménagé un petit bar avec que des matériaux de récupération. On organise des concerts. Des cafés-concerts, des journées pédagogiques, des soirées à thème plutôt familiales avec des karaokés et autres activités. Et dans la cour, enfin ça c'est plutôt dans la cour l'été. Et l'hiver en fait on organise des soirées un peu en mode club électro pour un autre public encore un peu plus jeune.
Des soirées électro dans un moulin, ça ne manque pas de sel.
Ouais, c'est pas mal.
L'acoustique est bonne ?
L'acoustique est plutôt bon. Ouais. Après, on est un petit peu dans la musique avec l'équipe. Donc, on a aménagé un sound system qui sonne bien. On a des platines de DJ, on va dire un deck. On appelle ça un deck assez confortable quand on mixe.
Vous parliez à l'instant de journée pédagogique. Que vient-on apprendre au Limon ?
Alors, on a fait plusieurs choses. On a fait une journée du patrimoine où on a pas mal détaillé l'histoire du lieu et le moment où s'est arrêtée la production de farine au moulin et un petit peu l'architecture, comment est constitué le lieu. On a fait une autre journée avec le parc du Morvan sur l'eau et la continuité de l'eau sur le territoire. Donc on essaye de mixer un petit peu différents thèmes liés à la nature et à la biodiversité.
L'éco-construction aussi, parce que votre moulin est un bon endroit pour apprendre à éco-construire.
C'est ça. Alors ça, c'est des projets qui sont un petit peu encore dans les tuyaux, mais on souhaiterait organiser des chantiers participatifs pour entreprendre quelques rénovations sur le bâti avec que des matériaux naturels type chaux, terre paille. On a déjà expérimenté une rénovation de 20 mètres carrés de toiture isolée en bottes de paille. Donc, et là, l'idée, ça serait pour la prochaine de faire les 200 mètres carrés du bâtiment principal.
Il y a un peu de boulot.
Il y a un petit peu de boulot, ouais. Mais on prend le temps et on garde du plaisir.
Quels sont vos autres projets à long terme pour cet endroit, pour ce lieu de vie?
On a une grange où on aimerait créer une salle de représentation de 150 personnes, 150 places debout, où là, au fait, on pourrait avoir tout type d'activité. Ça pourrait être une salle qui sert à la fois pour des concerts, mais à la fois pour des rassemblements de petits groupes d'adhérents qui souhaiteraient faire des activités yoga, danse ou autre. Essayer de faire une salle assez modulable finalement, parce que le public est assez intergénérationnel et a des envies différentes, à des moments de l'année différents, quoi.
On parlait de l'enjeu démographique tout à l'heure, hein, vous êtes en pleine diagonale du vide, même si ce terme est moins employé aujourd'hui parce qu'il est très péjoratif. Autant, c'est pas un désert culturel, hein, le Morvan, il y a pas mal de choses autour de vous. Il y a une volonté aussi de vous démarquer?
Alors ouais, on a plein d'amis qui ont des cafés associatifs ou des lieux alternatifs autour dans le secteur à 20 km. Nous, alors je sais pas si c'est une volonté de nous démarquer, c'est un peu c'est malgré nous. On a fait 10 ans en ville, un petit peu l'équipe fondatrice, où on a une culture plutôt liée à la musique électronique et d'autres formes d'art. Donc on a ramené un petit peu de ça de nous aussi dans la programmation, ce qui fait que avec notre programmation électronique et assez hétéroclite, on va dire, on peut peut-être se démarquer un petit peu d'autres gens, mais chacun a un petit peu sa patte. Il y a de la place pour tout le monde.
Ouais. Est-ce que vous diriez que ça marche bien aujourd'hui le Limon? Vous êtes content?
Ouais, on est ça va être la quatrième année cette année. L'année dernière, on a fait à peu près 22 événements et avec 17 cafés-concerts le lundi soir. Alors on fait le lundi soir parce qu'on a un bar qui est chez Jean-Patrick, notre bar fétiche dans le village. On voulait pas ouvrir en même temps que lui. Et le lundi, on arrive à avoir entre 60 et 120 personnes. Donc c'est quand même assez chouette pour un lundi soir en pleine campagne de rassembler autant de monde autour de la musique des arts.
Dans un village de 160 habitants, je le rappelle.
Dans
pas
un village
mal
de 160
tout.
Habitants, ouais, c'est ça, exactement.
Le Limon, c'est donc à Rémilly dans la Nièvre. Merci beaucoup David.
Merci, et je voulais remercier tous les bénévoles qui nous suivent et qui nous prêtent main forte à chaque fois pour tous les événements, et aussi les 500 adhérents qui sont passés à chaque fois au Limon et qui font vivre ce lieu.
Vous avez besoin de plus de bénévoles ou pas?
On a toujours besoin de bénévoles, ouais, évidemment.
Attendez-vous à voir débarquer les auditeurs et auditrices des carnets de campagne. Merci. Super. Encore et bonne journée.
Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.